On a avec nous en studio aujourd'hui le président directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, Dr. Bilodeau, qui est en poste depuis donc les derniers mois, qui conclut l'année. On va faire un bilan de certains sujets qu'on surveille du côté du CIS de l'Outaouais avec lui. Monsieur Bilodeau, bonjour.
Bonjour.
Et ben d'entrée de jeu, la raison de votre visite, parce que vous êtes de passage depuis hier dans la vallée de la Gatineau. Vous aviez des grandes visites à faire.
Oui, entre autres, en fait, hier, principalement, c'était une porte ouverte, en fait, je dirais, pour les médias et certains de nos politiciens pour la Maison des aînés, en fait, qu'on va inaugurer en 2025. Fait qu'on voulait voir l'avancement des travaux un peu, parce que la coquille est pas mal terminée maintenant, fait qu'on commence à faire un peu plus de la finition intérieure, donc c'est intéressant de voir de quoi ça va avoir de l'air, puis... On a eu une belle visite là, avec nos partenaires de la Société québécoise d'infrastructure. M. Bussière était avec nous également, puis en fait, les médias également étaient présents. Donc, je pense que ça donne un bel aperçu de ce que ça va avoir de l'air, puis ça donne le goût, ça crée un peu d'engouement par rapport à l'ouverture de cette nouvelle ressource-là pour la région.
Puis tu sais, on entendait parler que ces maisons des aînés, c'est un modèle différent. On avait vu pas des croquis, mais des dessins de tout ça. C'est franchement différent. C'est très grand également. Là. C'est immense, là.
Oui, beaucoup plus vaste, effectivement, que ce qu'on connaît de nos CHSLD, par exemple. Fait que c'est un modèle complètement différent qui est beaucoup moins hospitalier comme modèle.
On met l'humain au centre de tout, là.
Tout à fait, tout à fait. C'est beaucoup plus un milieu de vie, en fait. Hein? Mm-hmm. Puis on se sent plus chez soi dans un milieu comme celui-là que dans un CHSLD où est-ce que c'est plus de nature hospitalière.
Oui, même on me disait des endroits pour... Il y a certaines chambres qui ont été prévues pour si des gens doivent accompagner leurs parents en fin de vie. Il y a des chambres qui ont été prévues. Il y a une aile pour les Premières Nations, même qu'on disait. Il y a un endroit pour la viande sauvage et tout. On a vraiment... C'est pas juste parce que, tu sais, des fois, on fait des espaces autochtones, on met 2-3 bibelots, 2-3 cadres, on va plus loin que ça, là.
Oui. Dans ce cas-ci, on fait partie de la conception, en fait. Hein? Les communautés autochtones de la région nous ont aidés à concevoir le modèle, à faire certains choix de matériaux également, concevoir certains thèmes qu'on voulait adresser dans l'infrastructure. Donc, okay. Je pense que c'est une belle collaboration, effectivement, avec les communautés ici qui vont nous permettre d'avoir quelque chose qui va leur ressembler aussi, qui va répondre à leurs besoins, mais qui va leur ressembler surtout.
Moi, j'avais en tête pour une ouverture vers le printemps 2025. C'est toujours l'horizon qu'on surveille?
Oui, printemps-été, en fait, c'est la cible. Fait que c'est vraiment ça. Puis l'ouverture puis la mise en service, c'est deux choses différentes, mm-hmm. dans le sens que le produit va nous être livré au printemps.
OK.
Mais nous, on a un processus d'activation par la suite qu'on doit suivre. Ça veut dire que c'est là qu'on démarre le chauffage, c'est là qu'on démarre l'eau courante, les égouts, puis tout ça, puis on s'assure que tout fonctionne. Pour recevoir des résidents éventuellement, on l'espère fin été 2025.
OK. Faudra embaucher aussi. Ouais. Ça, c'est un défi, j'imagine, que vous voyez venir également.
Absolument, absolument. Puis on est déjà en mode recrutement puis en mode planification de ces embauches-là parce que la nouvelle ressource, d'un, il y a plus de lits, il y a 30 lits de plus que ce qu'on a à Perguinard actuellement. Puis de deux, c'est un modèle qui nécessite plus de ressources humaines que le modèle de CHSLD comme celui à Perguinard. Fait qu'il faut vraiment embaucher davantage de gens. Puis en plus, on s'est donné un défi additionnel, c'est celui d'embaucher du personnel de soutien autochtone. Des gens qui vont parler le langage, qui vont être capables de créer un peu plus de liens en fait, avec notre communauté autochtone qui vont être des résidents. On a déjà 8 résidents actuellement à Perguinard. On a une capacité jusqu'à 13 dans la maisonnée autochtone. Donc, je pense que c'est important pour nous de le rendre le plus familier possible pour les résidents, puis d'où l'importance d'avoir des gens qui parlent l'algonquin.
C'est-tu un défi supplémentaire, j'imagine?
Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il y a un défi de langue officielle également qu'on doit respecter.
Ouais.
On va probablement le faire en projet pilote pour s'assurer que ça fonctionne, qu'on a un objectif de francisation également dans ce contexte-là, parce qu'on a plusieurs... Plusieurs de nos Autochtones ici, en fait, parlent anglais comme langue seconde.
Oui, c'est ça.
Fait que c'est... Il y a un enjeu là, mais on s'est donné un défi de relever ce défi-là, puis je pense qu'on est en bonne voie de le faire.
D'ailleurs, tandis qu'on parle de recrutement, il y a aussi la rétention de personnel. Je me souviens, votre prédécesseur m'avait dit « J'ai réussi à mettre un bouchon dans le fond du bain. J'aimais bien l'image. Malgré tout, le bain ne se remplit pas peut-être au niveau. » Aussi rapidement qu'on le souhaiterait, ça ressemble à quoi l'état de la situation présentement?
Globalement, pour l'ensemble de la région, on a un bilan positif.
OK.
C'est-à-dire qu'on réussit à embaucher plus de gens qu'on en perd. Ça, c'est une nouvelle tendance qui s'est tranquillement renversée au cours des 2 dernières années. Ici, dans la vallée, c'est pas aussi positif que ça, dans le sens que la tendance se renverse progressivement, mais on est encore en bilan négatif. Je pense qu'on a, depuis les huit premiers mois, en fait, de l'année 2024-2025, on a embauché 7 personnes de moins que ceux qui sont partis. Mais ce chiffre-là est en diminution.
OK.
Parce qu'on était, dans les 40 l'année dernière.
Wow, OK.
Fait que tu sais, il y a vraiment une tendance positive. Fait que ça démontre qu'il faut continuer à faire des efforts, bien évidemment. Puis au-delà du recrutement, c'est la rétention, effectivement. C'est la clé. C'est comment est-ce qu'on rend nos milieux de travail les plus sécuritaires possibles pour nos gens, de façon à ce qu'ils veulent rester, qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils aiment leur environnement, puis qu'ultimement soient heureux au travail. C'est ça la clé, là, tu sais. Puis je pense qu'on n'a pas le choix de nos jours parce qu'il y a tellement une rareté de main-d'œuvre partout qu'il faut être un employeur de choix, puis c'est ma priorité.
Comment on explique ce renversement de la tendance?
Ben, je pense que c'est tous les efforts qu'on a faits, à la fois au niveau recrutement et au niveau rétention, qui portent fruit, en fait. C'est des travaux qui ont été initiés depuis quelques années déjà sous mes prédécesseurs. Puis moi, je bénéficie des fruits de ce travail-là, finalement, puis cet investissement-là qu'on a fait dans nos ressources humaines.
Là, il y a un défi supplémentaire quand même. Vous avez à conjuguer avec des compressions de 90 millions de dollars. C'est énorme. Comment on conjugue avec tout ça? Parce qu'on parle qu'on a des besoins. Je sais que c'est pas nécessairement le personnel soignant, mais ce qu'on entend, c'est que ça aura des répercussions par la bande. Je voudrais vous entendre par rapport à ça.
Oui, ben en fait, c'est énorme, oui. Mais en même temps, si on met ça sur un budget de 1,3 milliard, c'est 6 % de mon budget. OK? Fait que c'est. Faut le relativiser, je pense que c'est important. Mm-hmm. L'enjeu qu'on a spécifiquement pour cette année financière, c'est que faut faire cette réduction-là en dedans des quelques quatre mois qui nous restent avant la fin du mois de mars. Fait que c'est ça qui est le défi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que.
Est-ce qu'il y a du gras à couper?
Ben, c'est ça, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au cours des dernières années, surtout avec la pandémie, le gouvernement investit énormément en santé. Je disais que l'argent coulait bien. Puis des fois, quand il y a beaucoup de ressources comme ça, on manque un peu de rigueur dans la façon qu'on l'utilise, qu'on la déploie sur le terrain également. Ce qui fait que là, ça nous met dans une posture où est-ce qu'il y a beaucoup de non-performance actuellement dans ce qu'on fait. Quand je me compare avec d'autres établissements dans le réseau, je vois clairement qu'il y a des secteurs où est-ce que le retour sur l'investissement n'est pas là, ou est comparativement à d'autres régions. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une mauvaise utilisation des ressources, une utilisation non optimale des ressources. Il y a de la perte dans mon établissement. Puis ça veut dire qu'il faut que je regagne une certaine rigueur de gestion pour réussir à régler ça. Fait qu'il y a une partie de ces 90 millions-là qu'on va aller chercher là, en optimisation. Puis optimisation, ça ne veut pas dire qu'on va couper des postes dotés, ça ne veut pas dire qu'on va changer des services, ça veut juste dire qu'on va, par exemple, diminuer le temps supplémentaire. On va essayer de sevrer de la main-d'œuvre indépendante pour la remplacer par des employés qui nous coûtent moins cher. Ça veut dire qu'on va faire des démarches pour réduire un peu notre structure administrative, la structure d'encadrement, parce que notre taux est un peu au-delà de la cible provinciale qui nous est donnée. Fait que toutes ces démarches-là vont nous aider, je pense, à aller chercher de l'efficience sans couper des services. Puis moi, ce que je disais à mes équipes, c'est qu'avant de couper des positions dotées, avant de couper des services, ben il faut qu'on s'assure qu'on le fasse de la bonne façon. Fait que moi, je me suis doté d'un mécanisme à l'interne qui va me permettre de voir ça venir puis de prendre les bonnes décisions en fonction de tout ça. Même si on ne change pas les services de façon du volume puis de l'accès, ça se pourrait qu'on change la façon d'obtenir les services, par contre. Puis ça, c'est une on n'a pas le choix de se réinventer dans un contexte où est-ce que les ressources, les demandes, en fait, ne cessent d'augmenter puis mes ressources, moi, n'augmentent pas. Fait qu'à un moment donné, il faut repenser nos façons de faire, puis ça implique aussi d'impliquer l'ensemble de la communauté pour ce qui est de la prévention, pour ce qui est comment prendre charge de nos aînés, puis la société a un rôle à jouer là-dedans aussi au-delà du site de l'Outaouais, je pense.
On a beaucoup, tu sais, on entend, il y a plusieurs acteurs, SOS Outaouais en tête, là, réclament, puis on l'entend souvent, le 180 millions par année de moins historique, là, bon. Des fois, c'est 200 millions. Des fois, on dit 1 milliard sur 5 ans. On aime jouer avec ces chiffres-là, mais c'est quand même c'est beaucoup d'argent. Quand ils entendent ces coupes supplémentaires ou compression de 90 millions, c'est pas de bon augure. Ça soulève des craintes. Est-ce que vous pensez que ces craintes-là sont justifiées?
Je comprends d'où elles viennent, c'est clair. Je comprends d'où viennent les craintes. En même temps, moi, je vois ça sur deux horizons différents. Il y a un horizon à très court terme où est-ce que notre gouvernement, à cause de la situation financière, a besoin de prendre un contrôle sur les dépenses. Puis c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire probablement pour la prochaine année ou deux. C'est une opportunité pour moi également de me positionner, de prendre une meilleure rigueur, d'avoir une meilleure rigueur sur la façon que je gère les ressources, puis ultimement, bien, gagner de la crédibilité auprès des autorités supérieures de Santé Québec et du ministère. Puis le moyen-long terme, qui est le deuxième horizon, bien, justement, c'est de voir comment est-ce qu'on travaille sur ce déficit historique-là. Déficit historique qui... Oui, implique une certaine disparité salariale avec les autres employeurs de la région. On parle principalement, évidemment, en Ontario et le gouvernement fédéral. mais une disparité historique également qui se reflète par un manque de lits en hébergement, en soins de longue durée. On n'a pas assez pour répondre aux besoins, puis notre région est, comparativement à d'autres régions, est beaucoup moins bien dotée que la nôtre. Puis l'autre enjeu historique important, c'est le déficit de formation. On ne forme pas suffisamment de professionnels de la santé dans la région pour répondre aux besoins. Mm-hmm. Ça, c'est évident, on a les chiffres qui le démontrent.
Même McGill semblait, tu sais, quand ils nous ont présenté ça il y a quelques années, c'était vraiment... Moi, je suis un produit de l'Outaouais, ben vous aussi d'ailleurs.
Ouais.
Puis on se faisait dire, hey, ça va être miraculeux. Puis là, ce qu'on on semble dire, c'est que les profils sélectionnés, c'est peut-être pas nécessairement des gens qui demeureront une fois leur diplôme en poche dans la région.
Oui, ben je pense que c'est tôt pour tirer des conclusions là-dessus. Je pense quand même que l'investissement de McGill est en bonne direction dans le sens que ça augmente le nombre de personnes qui sont formées dans la région. Mm-hmm. Fait que nécessairement,
il offre des soins pendant les stages.
Tout à fait. Puis la première cohorte de 23, je suis pas sûr qu'on peut prendre des conclusions sur cette cohorte-là. On a une cohorte de 38 maintenant là, qui vient de commencer cet automne. Puis déjà, le profil est différent pour cette cohorte de 38
par rapport
à celle de 23. Fait que, ça va changer la donne, ça aussi.
Ouais.
Mais ça, ce n'est qu'un exemple. Évidemment, on travaille avec d'autres programmes de formation, avec le cégep de l'Outaouais, avec le cégep Héritage, avec l'UCO, avec les centres de formation professionnelle, de façon à voir où sont nos autres déficits. Là. Quel genre de professionnels on aurait besoin absolument puis qu'on ne forme pas actuellement? Ou dans les professionnels qu'on forme, lesquels les cohortes sont juste pas assez grosses pour répondre aux besoins, comme les soins infirmiers, par exemple. Puis comment est-ce qu'on peut augmenter ces cohortes-là? Mais évidemment, ça nécessite des investissements additionnels des ministères de l'enseignement et de l'enseignement supérieur. Puis c'est là-dessus qu'on travaille sur le long terme également, comme troisième pôle, je dirais.
Malgré ces compressions de 90 millions de dollars, il y aura des investissements importants qui seront consacrés à l'hôpital de Maniwaki en 2025.
Ouais.
On en a déjà parlé. On parle de un projet à peu près 2,5 millions de dollars. C'est le service de radiologie qui sera bonifié, les salles d'attente. On va revoir. C'est pas juste une machine. Là, on revoit les airs aussi où les gens circulent.
Oui, réaménagement du secteur, effectivement, de la radiologie à l'hôpital de Maniwaki. Puis également un changement, en fait, un remplacement de la tomodensitométrie, du CT scan, qu'on appelle communément. C'est ce qu'un examen de radiologie là, qui permet d'aller voir les organes internes. Un CT scan qui est en fin de vie, qui était dû pour être remplacé, mais qui nécessite de gros investissements parce qu'il faut renforcer le plancher, il faut faire plusieurs gros travaux quand même d'infrastructure. Un investissement de 2,5 millions quand même pour la région, donc c'est pas mineur. Puis si on combine ça avec la maison des aînés de 130 millions, ça fait quand même un bon investissement pour la région.
Ça va être une belle année pour la santé dans la vallée de la Gatineau.
Je pense que oui.
Écoutez, le mot de la fin, M. Bilodeau?
Bien, en fait, je veux juste rappeler en cette fin d'année le beau travail que font mes équipes, en fait, sur le terrain, ici particulièrement dans la vallée, des équipes dévouées, des équipes qui, à tous les jours, se sacrifient, sont passionnées par ce qu'elles font, sont très dévouées à leurs concitoyens de la communauté. Puis je pense que c'est important de souligner leur bon travail parce qu'ils travaillent très fort pour donner ces soins, ces services-là aux gens de la vallée.
Bien, docteur Marc Bilodeau, je le rappelle, vous êtes le président directeur général du CIS de l'Outaouais. Vous complétez votre première année en poste, là, même si ce n'est pas 12 mois ferme, mais quand même, hâte de voir ce dont sera fait 2025 en 100 ans d'Outaouais. Beaucoup de besoins, il y a beaucoup de gens qui réclament des choses, mais on y va tranquillement, pas vite. On va voir avec l'Agence Santé Québec également l'impact de tout ça. Merci d'être passé dans nos studios aujourd'hui, c'est apprécié.
Toujours un plaisir.
Au retour de la pause, le ministre Yann Lafrenière, ministre des Affaires autochtones du Québec, revient sur sa visite dans la région. On l'a reçu en studio hier, donc lors de sa visite durant laquelle il a abordé divers sujets avec les membres des Premières Nations et des élus de la région. Il y avait Mme Lamarche, M. Bussière, Mme Châtel également. Donc, on va revenir avec lui dans un instant. Restez des nôtres à l'heure juste.